Je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Puis on va regarder ensemble du verset 28 au verset 39. Donc, Romains 8, verset 28. On va se tourner au Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur grand Dieu, on veut encore une fois te louer, te dire merci, parce que dans notre petit coin ici à Notre-Dame-du-Nord, réunis entre frères et sœurs, tu es là au milieu de nous. Et c'est tout un privilège pour nous, Seigneur, de pouvoir glorifier ton nom, de pouvoir te chanter. Et Seigneur, c'est un moyen pour nous de venir t'adorer ensemble, s'encourager les uns les autres. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton grand salut. Aussi, Seigneur, je prie que ce matin, tu puisses me diriger par ton esprit, que ton esprit aussi travaille nos cœurs par ta parole, Seigneur, qui vient de toi, qui contient la vérité. Merci, Seigneur, parce que ta parole, c'est ta voix dans laquelle on peut se confier et te découvrir. Donc, Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous. Tu connais chacun de nos besoins. On s'en remet à toi. Merci. En Jésus, amen. Nous sommes au début d'une nouvelle année, l'année 2026. C'est un temps où, quand on arrive à la nouvelle année, où on se souhaite plein de belles choses, plein de bénédictions comme la santé, la prospérité, de pouvoir atteindre nos buts, nos rêves. Donc, c'est toujours ce beau temps-là. On espère toujours que l'année qui commence va nous amener peut-être des meilleures conditions économiques. Peut-être qu'on espère aussi que le Canada ne deviendra pas la cible d'une attaque terroriste durant l'année qui vient ou les années qui vont suivre. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Comment entrevoyez-vous l'avenir? Est-ce que vous placez votre espérance dans vos politiciens? Ou est-ce que vous placez votre espérance sur la chance ou dans la chance? Je pense que l'histoire nous enseigne bien que la vie que nous partageons sera effectivement remplie de déceptions, remplie de souffrances, d'épreuves, d'injustices, même de catastrophes et de deuil, etc., etc., etc. Mais existe-t-il dans ce monde des bénédictions pour les enfants de Dieu à laquelle on peut s'attacher, des assurances qui sont nôtres, sur lesquelles on peut se reposer dans un monde qui s'en va de plus en plus chaotique? Bien oui. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder à trois assurances que le Seigneur donne à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et puis ces trois assurances dans lesquelles on peut placer notre confiance et nous reposer si nous sommes enfants de Dieu. Donc, première assurance, en tant qu'enfant de Dieu, nous possédons l'assurance que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Paul écrit au verset 28, dans Romains 8, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Paul dit « Nous savons ». Et cette expression exprime une certitude qui était profondément ancrée dans son cœur, une certitude qui était solide dans son cœur. Et frères et sœurs, Paul dit, il ne dit pas « je sais », mais il dit « nous savons » parce qu'il veut que cette assurance soit aussi dans nos cœurs, dans vos cœurs et dans le mien, si nous sommes enfants de Dieu. Il dit au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose, » et l'expression « toute chose » ici veut vraiment dire « toute chose ». Autant les bonnes que ceux que nous qualifions de désastreuses. Un monsieur McNee a dit ceci, que toute chose inclut toute chose, bonne et mauvaise, lumineuse et sombre, douce et amère, facile et difficile, heureuse et triste, prospérité et pauvreté, santé et maladie, calme et tempête, confort et souffrance, vie et mort. En fait, vous allez voir que dans notre texte, la majorité des situations que Paul avance, c'est des situations, des circonstances qui sont vraiment négatives. Elles soulignent les souffrances que les chrétiens devront faire face. Bien que nous savons que la vie chrétienne n'est pas juste remplie de souffrances, elle est remplie aussi de souffrances. Venez pas à Jésus pour avoir une belle vie facile. Venez à Jésus pour avoir une belle grosse vie qui va être remplie de défis et d'épreuves, mais dans lesquelles vous serez plus que vainqueur à cause de sa présence qui va être avec vous pour vous assister. Au verset 35, Paul dit, « Nous, qui nous séparera de l'amour de Christ, serait-ce les tribulations, l'angoisse, les persécutions, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? » Juste pour souligner le contexte dans lequel Paul écrit le chapitre 8 de Romains, Paul rappelle aux chrétiens que c'est en espérance que nous sommes sauvés, au verset 24. C'est-à-dire que pour nous chrétiens, bien que nous sommes vraiment chrétiens, bien que nous sommes vraiment sauvés en Jésus, dans le moment présent, la consommation et le couronnement de notre glorieux salut est encore à venir. Et que pour ce moment, nous devons nous attendre et même nous préparer à faire face à des souffrances et à des épreuves en tant qu'enfants de Dieu. C'est le Romains 8, au verset 17-18, Paul souligne ceci. Il dit, « Or, si nous sommes enfants, enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, le salut glorieux, bien que nous pouvons en jouir aujourd'hui, bien que nous, Dieu a en réserve des joies extrêmes parce que le psaume 16, le psaume de David dit, « Dans ta présence, il y a une joie énorme, débordante, et à tes côtés, une joie éternelle. » Pour marcher avec Dieu, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de plus belle vie. Mais cette plus belle vie ne se mesure pas toujours avec des circonstances qui sont agréables. Le théologien Vine écrit ceci après avoir montré que la souffrance n'est pas incompatible avec une vie d'espérance. L'apôtre va élaborer maintenant cela pour clarifier que la souffrance fait partie de la réalisation des desseins infinis, sages, infiniment sages de Dieu pour nous, et que ni l'affliction, ni quoi que ce soit d'autre ne peut empêcher cela ou contrecarrer le dessein ultime de Dieu pour nous. Donc, Paul va proclamer haut et fort notre première garantie qui nous accompagneront avec les épreuves que nous aurons à faire face. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Peut-être que vous avez certaines situations dans vos pensées et vous vous dites, comment cela peut-il être possible? La réponse, c'est Dieu. Dieu est la réponse. Certains anciens manuscrits, disent et écrivent ce verset que nous venons de lire. Nous savons du reste que Dieu fait agir toutes choses ensemble pour le bien. Sommer l'écrit comme ceci, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. La raison pour laquelle nous pouvons avoir la garantie que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que Dieu est présent. Dieu, il est au début de ce verset, puis Dieu est à la fin de ce verset. Dieu est présent et au contrôle de toutes circonstances. Il est présent avant, au début, pendant et après pour travailler dans nos vies et nous façonner. Ce n'est pas que Dieu soit l'auteur du mal ou de l'injustice ou qu'il prend plaisir à regarder ses enfants souffrir. Absolument pas. Mais il est celui qui permet que nous soyons visités par certaines épreuves. Il est celui qui leur caisse le tout à la juste mesure pour nous façonner, pour nous amener, pour amener le bien qu'il a préparé pour ses enfants, pour ceux qui l'aiment. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, le chapitre, le livre de la Genèse. Puis vous vous rappelez comment Joseph a subi beaucoup d'injustices dans sa vie, comment ses frères ont tenté de le tuer. Ils l'ont vendu pour devenir esclave en Égypte. En Égypte, Dieu était avec lui. Il a été acheté par un homme riche qui avait beaucoup de pouvoir. Puis là, il a été faussement accusé, il s'est ramassé en prison, oublié en prison. Bientôt, ses frères sont arrivés en Égypte pour trouver de la nourriture. Et puis, quand ils ont découvert que c'est Joseph qui était là, maintenant gouverneur de l'Égypte, ils se sont mis à trembler. Dieu avait préparé ce chemin pour préserver la famille de Jacob. Jacob est déménagé finalement en Égypte. Et puis Jacob est mort. Et quand Jacob est mort, ses frères ont eu terriblement peur. Parce qu'ils ont dit, notre père est mort. Qui dit si Joseph n'apportera pas justice à tout le mal qu'on lui a apporté dans sa vie? Puis ils ont patenté une histoire pour dire à Joseph, Joseph, ton père, Jacob, avant de mourir, ils nous ont dit que tu devrais être gracieux, rempli de miséricorde vis-à-vis nous, puis tu devrais nous pardonner. Puis ça, ça a touché le cœur de Joseph. Parce que Joseph savait que ses frères avaient peur. Puis il savait que c'était une histoire toute montée. On lit au verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ainsi, et ils firent dire à Joseph, excusez, ton frère, ton père, a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver vos vies, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu assure à ses enfants que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Maintenant, de ceux qui l'aiment, qui sont ceux qui l'aiment? Bien, ceci ne souligne pas une catégorie de chrétiens, comme si elle s'applique à des chrétiens qui aiment Dieu et non à des chrétiens qui n'aiment pas Dieu. Bien que les chrétiens aiment Dieu à différents degrés, on doit le concevoir, les chrétiens sont identifiés comme des gens qui aiment Dieu. Les chrétiens sont tous identifiés comme des gens qui aiment Dieu, qui aiment Christ. 1 Pierre 1, 8 et 9 nous dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Jésus a dit à Pierre quand il l'a restauré, Pierre, m'aimes-tu? Pierre n'était pas capable de me dire qu'il aimait le Seigneur comme il l'aurait dit quelques semaines auparavant parce qu'il venait de planter bien comme il faut. Mais il a dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ceux qui sont enfants de Dieu sont reconnus comme des gens qui aiment. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Christ? Ceux qui aiment Dieu sont aussi ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ces deux expressions servent à identifier qui sont les enfants de Dieu et pour qui cette promesse s'applique. Parce que cette promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ne s'applique pas à tous les gens qui sont sur la terre. C'est une promesse que Dieu donne à ses enfants en particulier. Corinthiens 1, 22, 24 dit ceci pour ceux qui sont appelés. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Donc, ceux qui aiment Christ, ceux qui aiment Dieu, et ceux qui ont été appelés, ce sont eux, ce sont ceux qui sont considérés comme enfants de Dieu. Les versets 29 à 30 expliquent pourquoi les enfants de Dieu peuvent marcher dans l'inconnu et dans un monde de souffrance avec une telle confiance. Paul explique en commençant par le mot « car », verset 29, « car ». Voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous pouvons avoir cette telle assurance. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. L'apôtre déclare ici que la raison pour une telle assurance dans la vie du chrétien est due au fait que Dieu les prédestinés. La prédestination ne devrait pas être un terme qui nous rend inconfortable. Paul dit ici que c'est la raison même pour laquelle nous devrions trouver un confort. La prédestination garantit que ce que Dieu a planifié et décidé va voir son accomplissement. Rien ne peut contrecarrer ce que Dieu a planifié et décidé. Le Bridgeway Bible Dictionary dit ceci, la prédestination signifie que Dieu prédestine ce qui arrivera. Il voit, sait, planifie, prépare, nomme et décide ce qui arrivera. Ce que Dieu a prédestiné dans son merveilleux plan de salut pour secourir et sauver les hommes, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Et voici le bien que Dieu a prédéterminé. C'est que tous ceux qu'il a appelés, selon son très excellent dessein, seront transformés à l'image parfaite de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Cela, frères et sœurs, c'est le plus beau et le plus grand miracle. McDonald va dire là-dessus que des pécheurs impies, couverts de honte, soient un jour transformés à l'image de Christ par le miracle de la grâce, constitue l'une des vérités les plus extraordinaires de la révélation divine. Nous ne posséderons certes jamais les attributs de la déité, et notre visage ne resplendira pas jamais comme celui de Christ, mais moralement, nous serons comme lui, totalement libres du péché et dotés d'un corps qui sera glorifié comme le sien. 1 Corinthiens 15, 49 nous dit, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. » Frères et sœurs, est-ce que ça fait partie de vos plans, de vos desseins, de votre priorité de ressembler à Christ, d'être transformé à son image? Est-ce que vous êtes embarqué comme coéquipier dans le dessein que Dieu s'est mis sur votre vie si vous êtes enfant de Dieu? Bien que le mot sanctification n'est pas là dans notre texte, c'est exactement ce que Dieu fait avec ceux qu'il a appelés. Il nous transforme à l'image de Christ, il nous sculpte, il nous taille pour que le reflet, que l'image de son Fils puisse rayonner, le caractère de son Fils puisse rayonner de plus en plus à travers nous. Quand que Jésus s'est fait baptiser puis qu'il est sorti de l'eau dans l'évangile de Marc, la parole dit que la gloire de Dieu est descendue. Puis Dieu a dit, voici mon Fils en qui je mets toute mon affection. Dieu est en train de nous transformer, frères et sœurs, à la ressemblance de ce Fils, pour que nous marchions comme lui, pour que nous le glorifions comme dans le but dans lequel nous avons été créés. Est-ce que vous vous retrouvez fois de temps en temps en train de chanter le cantique « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Pensez à Jérémie toujours plus comme toi. On doit l'admettre que souvent nos desseins ou nos plans, nos objectifs, nos rêves, souvent ne vont pas dans cette direction. Mais on doit se rappeler que c'est le plus beau plan au monde, de l'univers. Et Dieu a commencé ce plan pour nous transformer, chacun de nous qui sommes, qui lui appartenons. On doit se rappeler aussi, frères et sœurs, que le plan de Dieu pour notre vie ne se limite pas à notre petite vie terrestre qui est comparée à une poussière. Je regarde mes frères, ils ont tous des poils blancs. Je vous le dis, c'est comme hier. Ils n'avaient même pas de moustache. Ils sont rendus des petits vieux. Excusez, boys. C'est vrai. Est-ce que la vie va vite, Armel? Ça va tellement vite, la vie. On a besoin d'une perspective éternelle parce que le projet, les desseins que Dieu travaille dans nos vies pour nous transformer à l'image de son Fils, on ne verra pas le bien toujours dans ce petit vie terrestre. Beaucoup de cette œuvre qu'il est en train de faire en nous, nous allons voir la récompense et la gloire de ce travail lorsque nous allons être rentrés dans l'éternité. Et notre vie comprend l'éternité. C'est comme juste l'introduction qu'on est en train de vivre. On lit de Moïse. Ça, c'est toujours quelques versets qui m'ont tellement impacté puis qui continuent à m'impacter. C'est dit, par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous vous rappelez? Il était adopté pour être fils de la fille de Pharaon. Il y a tout ce que tu peux rêver à voir. dans ce monde. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur sa récompense. Est-ce qu'on a une perspective éternelle? Frères et sœurs, on a besoin de cette perspective éternelle. Dieu fait un travail dans nos vies où, dans ce monde, on ne pourra pas voir le bien qu'il est en train de faire. Mais si nous connaissons Dieu profondément, si nous apprenons à connaître Dieu, nous allons pouvoir dire comme Paul, « Nous savons. Je ne le vois pas. Je ne le comprends pas. Mais je sais. Et je peux m'assurer, je peux marcher dans cette confiance que ce que Dieu va allouer dans ma vie, Dieu va s'en servir pour mon bien. Puis un jour, je vais l'adorer, le glorifier pour ça. Tout va se révéler devant moi. Deuxième assurance. Nous avons l'assurance qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous possédons l'assurance de notre salut. L'assurance qu'un jour nous serons glorifiés avec Christ. C'est une assurance que Dieu nous donne. Est-ce que nous marchons dans cette assurance, frères et sœurs? Ou si nous sommes inquiets en tant qu'enfants de Dieu? Je veux que vous sachiez que c'est très possible d'être inquiet en tant qu'enfant de Dieu, à savoir si on va vraiment atterrir au ciel. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous soyez inquiet aujourd'hui ou pas, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez être au ciel. Vous allez vous réveiller au ciel. Mais Dieu veut que vous marchiez dans cette assurance, dans cette sécurité, aujourd'hui. Verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Voyez-vous les maillons de la chaîne qui assurent votre salut? Qui assure qu'aucune tempête ni aucune tsunami ne pourrait faire en sorte que vous vous perdiez au large dans les ténèbres éternelles. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce que ce verset nous révèle devrait être pour nous une grande source de sécurité envers notre salut. Ce verset révèle que si vous avez compris votre besoin d'être sauvé et que vous êtes venu à Christ par la foi pour être racheté, c'est que Dieu vous avait choisi d'avance, avant même la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1 nous dit. C'est qu'il vous avait appelé par son esprit afin de vous justifier par le sacrifice de son Fils pour qu'ensuite vous puissiez être glorifiés avec lui pour la gloire éternelle. La Bible décrit deux sphères qui sont réelles, qui sont présentes et qui ne communiquent pas ensemble pour nous les hommes. Une des sphères comprend les hommes et souligne la responsabilité de l'homme face au salut qui lui est offert. Le salut est proclamé, et ceux qui croient la bonne nouvelle du salut en Jésus et viennent à lui pour être sauvés sont sauvés, tandis que ceux qui refusent de croire sont perdus. La responsabilité est donnée à l'homme. Puis, Dieu nous ouvre une parenthèse lorsqu'on rentre dans la famille de Dieu. Il nous ouvre la parenthèse de la sphère divine, qui nous révèle que ceux qui répondent et viennent à Christ dans la foi viennent parce qu'ils ont été choisis de Dieu avant même la fondation du monde pour pour être parmi ses élus. Une illustration simple qui nous est donnée, que j'ai découvert, je vous la partage. Quelqu'un a expliqué la prédestination avec cette image simple. Quand nous sommes venus à Christ, nous avons passé comme par une porte. À l'extérieur était écrit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et une fois que nous avons franchi la porte pour entrer dans les bras de notre Sauveur, nous nous sommes retournés pour remarquer un autre enseigne à l'intérieur de la porte sur laquelle était inscrit « Choisi avant la fondation du monde. » Et ça, frères et sœurs, ça devrait faire chaud à nos cœurs. Ça devrait faire chaud à nos cœurs. Est-ce qu'on est capable d'expliquer la responsabilité de l'homme et puis le choix divin de Dieu? Non. C'est comme deux tracts de chemin de fer qui roulent parallèlement, deux vérités, et Dieu nous donne plein de paradoxes dans sa parole de Dieu qui sont inexplicables. On doit accepter, on doit glorifier Dieu, louer Dieu, parce que Dieu est plus grand que nous. Mais pensez-y, Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Et c'est pour laquelle vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui. Non parce que vous avez commis pas d'aussi gros péché qu'un autre. Et cela couvre plus grand que la préscience de Dieu, que des gens disent, bien, Dieu savait ton choix. La parole dit, Dieu a prédestiné ton choix, bien que c'est à ta responsabilité. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Un jour, on va comprendre les choses que Dieu nous révèle, qui nous dépassent. Mais la parole est constante avec cette vérité. Et elle ne devrait jamais nous brouiller. Une chose que j'ai lue à travers toutes les lectures que j'ai faites sur la prédestination, c'est que la parole ne dit jamais que certains sont prédestinés à la perdition. La prédestination, elle est toujours mentionnée pour ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont été appelés. Un autre mystère. Jean 6, 37 nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à penser « Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que Dieu m'a choisi? Parce que s'il ne m'a pas choisi, je ne pourrai jamais rentrer. » Et non! Si Dieu vous a mis à cœur d'être sauvé, si vous a montré la réalité de votre perdition, et que Jésus est celui qui peut vous sauver, c'est parce que Dieu vous a choisi. C'est parce que Dieu vous dirige à Christ. Voici la garantie. Ce dessein que Dieu a initié en vous, il va le compléter. Et ça, c'est assurant, frères et sœurs. Mon salut ne dépend pas de moi, mais de celui qui s'est donné pour moi. Ce processus de salut, ces maillons qui forment la chaîne, sont tellement certains de s'accomplir que Dieu nous les réserve au passé, ou nous les révèle au passé comme si c'était déjà complété, bien que nous ne sommes pas encore glorifiés. Lisez le texte. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés au passé, bien que nous ne sommes pas encore glorifiés. La chose est tellement certaine, frères et sœurs, que c'est comme si c'était déjà fait. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous, et non à cause de nos bonnes œuvres. Dieu est pour nous, pas parce qu'on est un bon Jack. Non! Dieu est pour nous parce qu'il nous a choisis, parce que Dieu a décidé de nous appeler, parce que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et c'est pour ça que Dieu est pour nous. Si nous serions traités d'après nos œuvres, si Paul Jolin serait traité d'après sa vie, il périt en enfer pour l'éternité. L'apôtre Paul conclut sur ces versets précédents qu'on vient de lire. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous parce que dans sa grâce, il nous a choisis d'avance pour faire partie de son peuple et être transformés à l'image de son Fils afin que nous partagerions un jour la gloire éternelle. Et quelle évidence avons-nous pour ça? Verset 32. Quelle est l'évidence qui vient renforcer cette vérité et qui devrait convaincre nos cœurs? Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voilà la preuve que Dieu est pour nous. Prenons un regard à la croix. Christ s'est donné pour nous. Le verset dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour qui? Pour nous. Voilà pourquoi Christ est pour nous. Certains prennent des versets semblables pour dire, Christ est pour moi, donc, tous les rêves, tous les dessins que je vais accomplir dans ma vie, ça va être ma lampe à la dent. Voilà mon désir. Christ est pour moi. Non. Christ est pour nous. Il nous accorde la repentance et la foi pour nous tourner en son Fils, pour nous justifier, pour nous transformer à l'image de son Fils, pour que nous puissions jouir de sa présence pour l'éternité et être réconciliés avec lui. C'est un privilège, frères et sœurs, de faire partie de son dessein. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. La parole de Dieu déclare que tous ont péché, tous sont injustes et sont irrévocablement déclarés coupables et par conséquent inadmissibles de pouvoir bénéficier de la glorieuse présence de Dieu. Mais Dieu déclare irrévocablement le coupable injuste qui se confie en Jésus-Christ, juste et pur, le réconciliant avec lui-même pour partager sa gloire. Est-ce que Dieu peut simplement justifier parce qu'il est Dieu? Comme ça? On peut avoir la pensée des fois, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Rien n'est impossible à lui. Mais une chose que Dieu ne pouvait pas faire, c'est de nous déclarer, nous, des coupables injustes, justes, sans que justice soit satisfaite, sans que la justice divine soit répondue. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Dieu nous a justifiés. Dieu nous déclare, nous, des rebelles, des pécheurs, justes. Et tous ceux qui vont placer leur confiance en Christ vont être déclarés par Dieu justes. Mais ils seront déclarés justes parce que Christ est venu et offert sa vie pour nous. Dieu accomplit cette transaction parfaite et extraordinaire en appliquant la justice que son Fils est venu accomplir sur celui qui croit en Jésus. Pour que cette transaction puisse être possible, Jésus a dû satisfaire la justice divine sur deux fronts. Il a dû vivre une vie juste, sans péché, en parfaite obéissance au commandement de Dieu en tant qu'humain. Et puis, deuxièmement, il a dû satisfaire la justice divine en prenant sur lui la sentence qui nous était due à cause de nos péchés et nos injustices. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Lorsque vous recevez par la foi Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes à ce moment unis à Christ et sa mort vous est appliquée comme paiement pour vos péchés. Et sa juste et parfaite obéissance vous est aussi imputée, et Dieu vous déclare juste par sa grâce, bien que vous soyez encore pécheur et que vous n'ayez pas encore atteint la perfection. Et voici comment Dieu demeure juste, tout en déclarant le coupable juste à travers son Fils. Avez-vous reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie? Vous êtes-vous laissé abandonner dans ses mains, dans l'œuvre qu'il a accomplie pour vous, pour que Dieu vous déclare juste, pour que Dieu vous réconcilie avec lui-même et fasse de vous un membre de sa famille, un membre de son peuple? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie au verset 23. Qui les condamnera au verset 34? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous avons besoin de nous rappeler qui est Jésus. Qui est celui qui est venu dans ce monde? Qui est celui qui est mort comme un misérable sur cette croix? Hébreux 1, 2, 3 nous dit ceci. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Et le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Qui est celui qui intercède pour nous à la droite de Dieu? Celui qui tient l'univers par la puissance de sa parole, frères et sœurs. C'est pas le petit Jésus, c'est le Créateur. C'est celui qui tient tout, qui a autorité sur tout. Et c'est lui qui intercède lorsque Satan vient puis nous accuser pour nos fautes. Christ lui montre ses marques dans les mains, dans ses pieds, puis il intercède pour nous. Vous vous rappelez de l'épisode lorsque le Seigneur Jésus a averti ses disciples que Satan avait planifié de les mettre à terre, de les passer au crible. On lit ce petit épisode dans Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Satan avait planifié la destruction des disciples du Seigneur. Mais Jésus a prié pour eux. Jésus a intercédé pour eux. Pour qu'ils soient remis sur leurs pieds puis qu'ils soient des outils dans les mains de Dieu pour propager l'Évangile qui nous sauve aujourd'hui, frères et sœurs. Et ce même Jésus, c'est celui qui prie pour vous et moi. Celui qui nous aime, qui s'est donné pour nous. Hébreux 7, 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le troisième point, il ne sera pas aussi long. Je termine vite parce que notre heure est avancée. Nous possédons l'assurance d'être toujours les objets de l'amour de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous possédons l'assurance d'être pour toujours les objets de l'amour de Dieu. Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Celle qui nous a été manifestée à la croix, frères et sœurs, elle demeure pour vous et moi. Elle demeure active pour vous et moi. La parole utilise une analogie, une image, l'image d'un époux et d'une épouse pour souligner l'amour de Christ pour son épouse. Puis en Éphésiens 5, 27 à 27, nous lisons « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole. » pour faire paraître devant lui cette église ou cette épouse glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Rien. J'ai l'assurance, Paul dit, que rien ne peut nous séparer de son affection, de son attention, de l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies par amour pour nous et qu'il nous a démontré à la croix. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce monde rempli d'insécurité, les enfants de Dieu ont de grandes assurances, de grandes bénédictions. Nous possédons l'assurance que Dieu va utiliser toutes choses pour notre plus grand bien. Deuxièmement, nous possédons l'assurance de notre salut. Et troisièmement, nous possédons l'assurance d'être toujours l'objet de l'amour de Dieu. De toute éternité en toute éternité. Que le Seigneur puisse nous accorder, frères et sœurs, par la foi, à découvrir la grandeur de son amour, la puissance de notre Dieu qui accomplit ce qu'il a déterminé pour que nous apprenions à nous reposer et de pouvoir avancer avec confiance dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Prions. Seigneur, on veut te dire merci. Merci parce que bien que notre monde s'en va en déchéance, tu es en parfait contrôle de notre univers. Et tu es aussi en parfait contrôle de l'œuvre que tu accomplis en nous, tes bien-aimés. Merci, Seigneur. Merci dans ta grâce de nous avoir choisi. Merci de nous avoir appelés. Merci, Seigneur, de nous avoir justifiés. Et merci de nous avoir glorifiés. Seigneur, puisses-tu nous rafraîchir par cette sécurité, par ces assurances, Seigneur, que tu nous donnes. Puisses-tu nous donner de rayonner de joie, de paix, d'amour, parce que nous savons que nous sommes sauvés, que nous t'appartenons et que toute chose tu le rendras pour notre bien. Seigneur, on veut s'abandonner entre tes mains. Puis c'est la prière de nos cœurs que si certains parmi nous ne se sont pas tournés encore vers toi, pour être pardonné et réconcilié avec toi, qu'aujourd'hui, ça puisse être ce jour où est-ce qu'ils s'avancent par la foi pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.